Bonsoir à chacun. Je vais tout d'abord dire merci au Seigneur pour sa présence encore ce soir. Voulons dire merci pour ce beau soleil que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. À lui soit toute la gloire. Amen. Est-ce que je dois quand même présenter?
Oui, peut-être pour des personnes qui n'étaient pas là hier.
Ok. Merci bien. Alors, je m'appelle Emmanuel Sawadogo. Je suis originaire du Burkina Faso. Et je suis pasteur dans une église Assemblée de Dieu dans la ville qu'on appelle Ouagadougou. Voilà, je suis marié, comme je l'ai dit hier, à une seule femme. Et le Seigneur nous a donné deux enfants, Eliada qui a 5 ans et Eliel qui a 1 an, 9 mois. Voilà un peu. Amen. Alors ce soir, je voudrais que nous fassions une lecture dans Josué chapitre 2. Je crois que c'est un texte que vous connaissez très bien, Josué chapitre 2, le verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 11. Josué chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Alors si vous y êtes, nous allons lire. Il est écrit, Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. C'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Le verset 4. La femme prit les deux hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis et j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit. Il les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Je suis au verset 7. Ces gens se les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'ont fermé la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, qui vous avez dévoués par interdit. » Le verset 11 maintenant. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce soir. Alors, suite à cette lecture, je vous propose comme thème ce soir, reconnaître son identité en Christ. Amen. Reconnaître son identité en Christ. Certainement que vous conviendrez avec moi, dans les derniers temps, en tant que chrétien, enfant de Dieu, voulant plaire au Seigneur, voulant suivre sa voie, nous rencontrons des vents et des marées, des difficultés. Et le souci, c'est qu'en rencontrant ces difficultés, à un moment donné, ces difficultés qui se dressent comme des obstacles devant nous deviennent des poids, des charges, à un tel point qu'on ne sait plus qui nous sommes. Tellement qu'on rencontre des difficultés, des problèmes, à un moment donné, on ne sait plus si réellement Dieu est avec nous. À un moment donné, on se dit, mais si Dieu était là, est-ce que ces choses allaient m'arriver? Et par la suite, si le vent continue de souffler, si les hommes continuent de nous harceler, si la situation ne change pas, à un moment donné, on commence à perdre notre identité. On se dit, mais est-ce que si Dieu était avec moi, est-ce que ces choses allaient m'arriver? Et là, on commence à baisser les bras et il y a le découragement qui commence à nous tomber dessus. Et vous savez, on reconnaît un enfant de Dieu de par l'autorité que le Père a posée sur lui. Regardez un temps soit peu, un monsieur comme moi qui sort juste à la fin du culte, j'ai un petit sifflet à la bouche, et je m'arrête sur le boulevard à côté, au milieu de la route, et je vois une voiture qui arrive, je siffle, je lève la main et je dis au monsieur de garer. Pensez-vous qu'il va garer? Non. Il va se dire, mais qui est cet homme-là? Est-ce qu'il a perdu la raison? Malgré que j'ai levé ma main et que j'ai le sifflet, il ne s'arrête pas. Vous comprenez? Même si je posais peut-être, je garais une voiture à côté et j'écrivais là-dessus police, d'accord? Avec ma tenue que j'ai, je lève ma main avec mon sifflet, mais il ne s'arrêtera pas. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, mais imaginez-vous un policier qui est en tenue, d'accord? Il s'arrête au beau milieu de la voie avec son sifflet, il lève sa main, il siffle et il tenue de garer. Allez-vous garer ou pas? Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il est en tenue et nous sommes sûrs qu'il est un policier. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, étant dans le Seigneur, c'est l'autorité du Père en nous qui montre que nous le lui appartenons. Et c'est l'autorité du Père en nous qui montre que nous avons réellement l'identité du Père. Vous savez, ce policier, même si on ne le connaît pas, on va s'arrêter quand même. Parce qu'il représente l'autorité. Il représente la force de la nation. Et souvent, je suis impressionné justement au Burkina quand je vois un policier, excusez-moi s'il y en a ici, qui a peut-être ma taille, un peu court ou plus grand, je ne sais pas, et qui, à partir de son sifflet et de sa main, il arrête même les gros camions. Et quand je regarde cet homme, vu sa taille qu'il a, par rapport à la taille du camion et de son poids, je dis, mais attends, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Vous êtes d'accord avec moi? Mais cet homme, il a l'autorité. C'est à cause de l'autorité que l'État le donne, c'est cette autorité-là qui le permet de faire cela. Mais imaginez-vous, si cet homme, il porte sa tenue avec son sifflet, je ne sais pas si ici ils ont un sifflet, je ne sais pas, hein? Mais chez moi c'est le cas, d'accord? Avec son sifflet, il s'arrête, et le policier dit, mais oui, j'ai la tenue, j'ai mon petit, j'ai mon pistolet ici, j'ai mes menottes par là, mais est-ce que si je siffle, est-ce que si je lève ma main, est-ce que la voiture va s'arrêter? Ah, là, je suis pas sûr. Ouais? C'est-à-dire, il est en tenue, il a le pouvoir, mais lui-même, il ignore qui il est. Vous comprenez ça? Il est en tenue, il est en droit, il a l'autorité, mais lui-même, il ignore la force que l'État le donne. Et parce qu'il hésite, il n'aura pas le respect. Parce qu'il hésite, les hommes ne vont pas se soumettre à lui. Ils ne vont pas l'écouter. Parce qu'il n'est pas sûr lui-même de ce qu'il fait. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dans Jean chapitre 1 verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Ça veut dire que du moment où nous devenons enfants de Dieu, nous quittons le royaume des ténèbres et nous passons à notre royaume qui est le royaume de la lumière. Et quand on passe dans ce royaume-là, on reçoit l'ADN du Père. Et en recevant l'ADN du Père, c'est la marque de l'autorité qui prouve que nous le lui appartenons. Mais le problème, c'est qu'avec ces difficultés que nous rencontrons, les problèmes, la maladie, le chômage, les échecs, à un moment donné, on se dit, mais attends, toutes ces choses viennent. Ils n'enlèvent pas, mais ils viennent se poser sur l'autorité à tel point que on ne voit plus le Père en nous. On ne sent plus cette autorité du Père-là qui habite en nous. Et je crois qu'il est temps que l'Église de Christ Jésus reconnaisse qui elle est réellement. Il est temps que chaque personne reconnaisse son identité dans le Seigneur. Ça, c'est un élément important. Si nous reconnaissons qui nous sommes, frères, je crois que nous pourrons avancer avec le Seigneur. Si nous reconnaissons sa marque de l'autorité qui est sur nous, si nous reconnaissons la puissance qu'il a placée en nous, frères et sœurs, nous allons faire de grandes choses avec le Seigneur. Voilà pourquoi David disait dans Psaume 60, il dit, avec Dieu nous ferons des... Voilà, ça veut dire quoi? Dieu à moi, vous comprenez? Dieu à moi, le plus grand qui habite à moi, il me donne quoi? Son autorité. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, il dit, regardez, allez-y. À ceux qui vont croire, ils vont imposer les mains sur les malades. Et les malades seront quoi? Guéris. En mon nom, ils vont chasser les démons. Mais Église de Christ Jésus, est-ce qu'aujourd'hui, nous manifestons l'autorité du Père? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on nous regarde, Est-ce que réellement, on voit la marque du Père dans nos vies? Ça, c'est un élément important. Et je crois que nous ne pouvons pas aller loin avec le Seigneur si nous ne reconnaissons pas qui nous sommes. Comme je l'ai si bien dit, le policier peut être en tenue, mais s'il hésite avec son petit sifflet qu'il a, le chauffeur ne va pas s'arrêter. Mais s'il se dit en lui-même, oui, je représente tout l'État, il est confiant, il est sûr, il siffle, il lève sa main, tu t'arrêtes. Parce qu'il est sûr de ce qu'il fait. Donc le chrétien dans le Seigneur, il reçoit l'autorité de Dieu pour manifester le royaume de Dieu sur cette terre d'abord. Avant que le temps de manifester son royaume ensemble vers le Père n'arrive. Et ça c'est un élément important. La Bible nous dit que Dieu parla à Moïse. Il envoie Moïse en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener en Canaan. Et moi, ce qui est très frappant dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, Josué a pris la relève, il a continué à conduire le peuple vers la terre promise. Il y a un pays ou un peuple ou un territoire que Dieu leur avait déjà donné, qu'on appelle Jéricho. Cette histoire me touche beaucoup, frères et sœurs. Et là, Josué, il envoie deux personnes. Il dit, allez-y, explorez d'abord le pays. Voyez d'abord comment le pays est. S'il est fort, s'il est faible. Regardez un peu les points stratégiques. Alors, revenez nous informer. On va se préparer pour mieux attaquer Jéricho. Et ces deux espions, je crois personnellement que Josué n'a pas envoyé n'importe qui. Non. Certainement qu'il a envoyé les soldats les plus braves. Certainement. Ceux qui ont la capacité, ceux qui ont la force, ceux qui savent regarder, observer, analyser, d'accord? Et qui peuvent faire un rapport correct. Entre guillemets, je pense qu'il a envoyé les élites de son armée d'aller voir Jéricho pour revenir leur aider afin qu'ils puissent attaquer ce peuple-là. Et regardez ce qui se passe. Quand ils arrivent à Jéricho, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à explorer le pays. Et très rapidement, la nouvelle commence à se répandre dans la ville jusqu'à ce que le roi de Jéricho apprenne que il y a deux hommes qui sont entrés dans son pays. Regardez ce qui se passe ici. Il y a des soldats dans Jéricho, mais deux hommes sont entrés dans le pays et à cause de ces deux hommes-là, le roi de Jéricho était troublé. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des militaires, des soldats dans le pays. Ça n'inquiète pas le chef de Jéricho. Mais deux personnes qui sont arrivées, juste ces deux personnes-là, quand il a entendu, il a commencé à être inquiet. Et la Bible dit qu'au coucher du soleil, ils sont allés vers une prostituée qui s'appelait Rahab. Et cette prostituée les a reçus. Je me suis posé la question, mais pourquoi ils ne sont pas allés à l'hôtel? Peut-être c'était un lieu, vous voyez, cette dame, elle était prostituée, d'accord? On peut dire, oui, une prostituée, sa vie n'est pas propre, alors sa vie n'est pas saine, alors elle vit une mauvaise vie et personne ne veut s'approcher d'elle, personne ne veut aller là-bas. C'est là que les deux espions sont partis. Permettez-moi de vous dire ce soir, frères et sœurs, le Seigneur n'est pas venu, Christ n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour ceux qui sont héros, il est venu pour les faibles. Il n'est pas venu pour ceux qui ont la capacité, non. Mais il est venu pour soutenir ceux qui n'ont pas la capacité. Ces deux hommes ne sont pas allés dans des endroits prestigieux, non. Mais ils sont allés dans la cour d'une femme, entre guillemets, pécheresse. Une femme pécheresse, c'est là-bas qu'ils sont partis. Même quand on regarde Jésus dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il mangeait et buvait avec les gens de mauvaise vie. Et souvent, je rencontre des personnes qui me disent, mais pasteur, ma vie, ça ne me plaît pas. Je mène une mauvaise vie et je ne me sens pas digne de venir à l'église. Je me sens indigne de parler à Dieu. Et je leur dis toujours, c'est des hommes comme vous que le Seigneur cherche. Alléluia. C'est des hommes comme vous qu'il en a besoin. Il n'est pas venu pour les saints, non. Il est venu pour ceux qui sont dans le péché. Il est venu pour chercher ceux qui sont dans le péché. Voilà pourquoi l'évangile de Jean nous dit, Jean chapitre 1 verset 27 dit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde. S'il y a quelqu'un ce soir ici dans cette salle qui se dit à lui-même, je suis nul, je ne vaux rien, je suis incapable. C'est pour toi que Christ est venu. Il est venu pour prendre l'incapacité qui est en toi, pour te donner, lui, sa capacité. Vous savez, il y a eu bien d'années passées où j'avais cette pensée dans ma tête. Cette pensée de ne pas être capable de faire quelque chose. Cette pensée d'être nul. Cette pensée, excusez-moi, d'être un vaurien. Cette pensée de ne pas avoir ma place dans la société. Et souvent, quand je me regardais moi-même, je n'étais pas fier de ma personne. Vous comprenez ça? Et il y a des moments, quand je porte une chemise, je sens que même la chemise, elle est contre moi. Je redresse les cols se penchent ici, je les redresse, mais je sens que même la chemise, elle ne veut pas être sur mon corps. Et quand je me mirais, oh là là, je ne voulais pas me regarder. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait comprendre que, écoute, tel que tu es, je t'ai vu et je suis venu vers toi. Alléluia. Tel que tu es, quelle que soit ta vie, quel que soit l'état dans lequel tu es, frère et sœur, Christ vient jusqu'à toi pour te relever, pour te prendre, pour te chercher, pour te purifier par ton sang, par son sang, et pour faire de toi un instrument à la gloire de son nom. Ces deux espions sont allés chez cette femme, une femme prostituée, une femme qui avait une mauvaise réputation, une mauvaise vie. C'est là que ces deux hommes sont allés se cacher. Et regardez ce que la Bible dit. Le roi de Jéricho envoya des soldats à l'écheu, Rahab, pour lui dire, mais écoute Rahab, il faut nous faire sortir ces deux hommes-là. Frères et sœurs, Rahab les avait cachés sur sa maison. Et cette histoire me touche beaucoup, frères et sœurs. Voilà que deux soldats, deux élites d'Israël sont sous des tiges de lin, d'accord? Ils sont là en train de trembler certainement. Parce que peut-être qu'ils entendent la voix des soldats de Jéricho qui sont là dans la cour de Rahab et qui la posent des questions. Et eux, ils sont sous le toit, en train de trembler. Ah, si peut-être ça lâche, on va nous saisir ici, on pourra nous tuer. Ils sont là en train de trembler. Deux héros qui sont sur un toit, en train de trembler. Et à cause de ces deux personnes-là, le roi de Jéricho ne dort pas. Ah. Alléluia. Deux soldats, deux héros qui sont sur le toit, ils ont peur, ils sont en train de trembler. Et parce que le roi de Jéricho a entendu parler de ces deux hommes-là, lui, roi de Jéricho, il a aussi peur. Parce qu'il se dit que ces deux hommes-là, eux seulement, rien que les deux, peuvent détruire tout mon pays. Mais voilà que ces deux hommes sont là, en train de trembler. Comprenez ça? Frères et sœurs, quand on ne reconnaît pas qui nous sommes, si nous ne reconnaissons pas notre identité, l'autorité que le Père nous a donnée, nous allons trembler à des endroits où il ne faut pas trembler, frères et sœurs. Alléluia. Voilà que les deux héros sont là sous les tiges de lin, en train de trembler. Ils ont peur. Et le roi aussi, certainement, chez lui, il ne mange pas parce qu'il a peur. Parce qu'il y a deux personnes qui sont dans son pays. Deux personnes qui sont entrées dans le pays. Lui, il tremble. Et le roi aussi tremble. Vous comprenez? Parce que le roi connaît la puissance de ces deux hommes-là. Mais les deux hommes ignorent qui ils sont en réalité. Ça, c'est la vie de plusieurs personnes. Dans la maison du Seigneur, ils sont en Christ, mais ils ignorent qui ils sont en réalité. Quand le roi des ténèbres les regarde, eux, ils tremblent. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu entends aussi parler d'eux, tu trembles. C'est là le problème. Quand on regarde 1 Samuel chapitre 17, la Bible nous dit que il y avait un conflit entre Israël et les Philistins. Tout Israël était là. Ils sont allés pour combattre. Et pendant 40 jours, il y a un homme qui s'appelle Goliath. Il sortait et il leur parlait. Mais moi, ce qui m'impressionne dans ça, c'est quoi? Regardez, des hommes qui sont allés pour combattre, n'est-ce pas? Certainement que ils ont des techniques de combat. Ils ont des armes qu'il faut. Ils sont au front pour combattre. Et maintenant, on voit l'adversaire qui sort le matin et le soir, qui leur adresse la parole. Mais rien qu'en leur parlant, ils tremblent. Comment peux-tu aller te battre avec quelqu'un? Lui, dès qu'il parle, toi, tu trembles. Vous comprenez? jusqu'au jour où il y a un jeune homme qui s'appelle David. Quand il arrive, il voit Goliath qui apparaît et qui commence à parler, qui commence à insulter l'Éternel. Et David dit, mais qui est cet homme-là? Et pourquoi vous le laissez parler comme ça? David reconnaissait qui il était. Il reconnaissait qu'en étant berger dans la bouche, dans la forêt, Dieu a été avec lui. Il reconnaissait qu'il a eu du temps dans l'intimité avec le Père. Et il reconnaissait qu'il a un Dieu auquel rien ne lui est impossible. Vous comprenez ça? Les hommes voyaient la taille de Goliath. Ils voyaient sa force. Ils voyaient même ses armes. Mais David voyait aussi le grand nom de l'Éternel qui est en lui. C'est ça, reconnaître son identité, frères et sœurs. C'est ça, reconnaître qui nous sommes dans le Seigneur. Ça, c'est vraiment important. On a amené David chez Saül. Il a commencé à prendre ses armures pour le revêtir. Mais il ne pouvait même pas marcher, David, avec tout ça. Il a pris quoi? Qu'est-ce qu'il a pris? Sa fronde. Avec ses pierres, ses cinq pierres, il a dit à Goliath, tu viens vers moi avec tout ce que tu as comme arme là, ta lance et le javelot. Mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Regardez ici. David dit à Goliath, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il avait? Sa fronde. Écoutez-moi très bien. David avait sa fronde. Mais en allant vers Goliath, il n'a pas fait cas de sa fronde, non. Il dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Mais entre ses mains, il avait quoi quand même? Il avait sa fronde. Vous êtes d'accord avec moi? La plupart des enfants de Dieu ou des chrétiens sont collés à Dieu. Ils s'attachent à Dieu quand ils n'ont pas la fronde. Ils se confient entièrement à Dieu. Le jour qu'ils auront la fronde, ils partiront en leur propre nom et non au nom de l'Éternel. La plupart se confient à Dieu. Ils jeûnent, ils prient, ils adorent Dieu parce qu'ils veulent la fronde. Le jour qu'ils auront la fronde, ils s'appuient sur ça, ils ne s'appuient plus sur le nom de l'Éternel. Même quand Dieu te donnera la fronde et les pierres, continue de t'appuyer sur le nom de l'Éternel. Car c'est ce seul nom qui ne faillit pas. C'est ce seul nom qui remporte toujours des victoires. C'est ce seul nom qui n'échoue jamais. Voilà pourquoi il a dit à Goliath, écoute, toi tu viens vers moi avec ta lance et le javelot, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. Tout Israël saura aujourd'hui que l'Éternel, il est Dieu. Voilà quelqu'un qui a reconnu qui il est. Voilà quelqu'un qui a reconnu les potentialités, la capacité, le pouvoir, le dépôt que le Père a placé en lui. Voilà quelqu'un qui reconnaît que j'ai un Dieu grand, j'ai un Dieu puissant, j'ai un Dieu capable d'agir pour moi. Vous savez, les hommes voyaient quoi? La taille de Goliath. Quand il parle et tout se tremble là-bas. Mais toi, tu es allé pour faire quoi? Pour aller combattre, n'est-ce pas? Et tu es là, le matin, tu manges. À midi, tu manges. D'accord? Le soir, tu manges. L'ennemi sort, il parle. Toi, tu trembles. Et tu continues quand même de manger. Hein? Et on dit que, ah, prions pour un tel parce qu'il est au combat. Pourtant, il est là-bas en train de manger. Et l'ennemi parle matin et soir. Mais quand David arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais aller rencontrer cet homme-là. Parce que je ne peux pas être là pendant qu'on insulte l'Éternel des armées. Il a reconnu que l'Éternel en lui, lui accorde la victoire sur cet adversaire-là. Tout Israël voyait la force de Goliath. Peut-être même sa taille. Il était gros, grand certainement. Mais peut-être que David se disait en lui-même, il est tellement grand, il est tellement gros, il est tellement large que je ne peux pas le rater. Amen. Vous savez, tout dépend de la vision que nous avons des choses. Tout dépend de la vision. Eux, ils voyaient la force, ces muscles-là. Ils voyaient, quand ils parlent, la force de sa voix d'abord. Mais David, quand il le regarda, il dit, mais tiens, cet homme-là, il est tellement grand, gros, large, tout ce qu'il faut. Et je suis sûr que ma fronde-là, ça va l'atteindre. Et il s'est appuyé sur le nom de l'Éternel pour partir. Le nom de l'Éternel est une tour forte, frères et sœurs. Si nous reconnaissons que, à la conversion, il nous a donné son autorité. À la conversion, il nous a donné son pouvoir. Quand on a donné notre vie à Jésus, il nous a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Frères et sœurs, quand on devient un enfant, on hérite tout ce que le Père a. Vous comprenez ça? Quand vous mettez un enfant au monde, cet enfant, il hérite de tout ce que vous avez. Donc, nous, étant dans le Seigneur, étant ses enfants, nous avons son autorité. Nous avons son pouvoir. On a sa capacité. Vous comprenez? Ça, c'est un élément important. Il dit, je vous donne le pouvoir, allez-y. Donc, étant dans le Seigneur, on a l'autorité du Père pour manifester son royaume. Voilà pourquoi à chaque moment, un chrétien, enfant de Dieu, doit aller au pied du maître pour dire, Seigneur, renouvelle encore ton autorité à moi. Renouvelle encore ton autorité. Là où les hommes du monde, quand ils arrivent, ils tremblent. Moi, en tant que ton enfant, quand j'arrive, que je ne tremble pas. Parce que l'autorité du Père réside en moi. Je me rappelle quand j'étais au lycée au Burkina Faso, il y a eu un temps où je devais passer un examen scolaire. Et deux jours avant l'examen, j'ai pris du temps pour parler à Dieu. Et dans mes prières, le Seigneur m'a fait comprendre que, parce que déjà je voyais les étudiants qui tremblaient. Mais on n'est même pas au jour J de l'examen d'abord, mais eux ils tremblent déjà. Vous voyez ça? Ils tremblent. J'ai dit, mais Seigneur, donne-moi la force. Je ne veux pas trembler comme eux. Parce que moi, j'ai un Dieu grand, puissant et fort. Et dans mon intimité avec Dieu, c'est là qu'il m'a dit, Emmanuel, écoute très bien. Les autres viennent pour composer, pour tester, voir. Mais toi, je te donne déjà ton diplôme avant la composition. Peut-être demain, on va parler un peu, si on a l'occasion, les différents niveaux ou peut-être les différents types de révélations. Comment Dieu parle? Comment Dieu se révèle à nous? Quand j'ai entendu sa parole, j'ai dit, tiens, ça vient de mon Père. J'ai capté la parole. Parce qu'on peut être un chrétien, passer toute une vie chrétienne, sans entendre la voix du Père. Et souvent, moi, ça me fait mal au Burkina quand des gens me disent, mais pasteur, ah, Dieu là, on dit qu'il parle. Est-ce qu'il parle vraiment? Mais comment? Comment un père peut avoir son enfant et ne pas avoir envie de parler à son enfant? Comment? C'est ça. Nous qui mettons nos enfants au monde, qui est ici, il a un enfant et il n'a pas du plaisir à aller vers son enfant. Quand l'enfant te dit papa, la première chose, tu tournes ton regard vers l'enfant. Tu dis, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Maintenant, il faut aiguiser l'oreille, il faut exercer l'oreille à entendre la voix de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement Dieu qui parle, hein. Satan aussi parle. Nos pensées parlent. Et souvent, si l'oreille n'est pas aiguisée, on prend la voix de nos pensées, on dirait que c'est Dieu. Et là, on aura chaud. C'est ça le problème. Quand c'est Dieu qui nous parle réellement, frères et sœurs, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et juste la nuit avant que j'aille composer, regardez ce qui se passe, frères et sœurs. Ce n'est pas un témoignage, non, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui s'est passé avec moi. La même nuit, j'ai eu un songe. Ça, c'est la première étape, béaba de la foi chrétienne. Quand tu dois, tu commences à voir d'abord. Ça, c'est comme un enfant qui est d'abord au CP1. Vous comprenez ça? Tu dors, tu commences à voir. Et j'ai toujours dit, la nuit, c'est un temps précieux pour un enfant de Dieu. Quand tu dors là, ton esprit est en contact avec le Père. Et ton esprit est en contact avec Dieu qui est dans le ciel. Il te révèle des choses surnaturelles. Maintenant, pendant ton coucher, si on n'est pas en contact, en intimité avec lui, qu'est-ce qu'on reçoit? C'est ça. Et cette nuit, pendant que je dormais, j'ai vu une feuille blanche qui est apparue sous mes yeux. Et j'ai vu, c'était écrit épreuve de français. Quand j'ouvre mes yeux, je ne vois rien. Quand je les ferme, je vois la feuille. Je dis, ah, béni soit le Seigneur. Dans ma chambre, je me lève, je prends une feuille blanche. Je ferme les yeux et je commence à recopier. J'ouvre mes yeux, je trouve que c'est une réalité. Je prends mes cahiers de français, je revis ces parties-là. Le lendemain, j'arrive à l'école. Tous les élèves sont là. D'autres sont venus avec les parents parce qu'ils ont peur, ils tremblaient. Moi, je suis venu avec Jésus. Alléluia. Je suis venu avec Jésus. l'examinateur, il rentre. Il dit, regardez l'enveloppe là. Est-ce que c'est fermé? On dit oui. Il y a le cachet de l'État. On dit oui. Tout est fermé. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est quoi? C'est que ce qui est dans l'enveloppe là, moi, mon Dieu m'a révélé ça depuis ma chambre à la maison. C'est ça. Il m'a révélé ça depuis que j'étais couché à la maison. Ils ont ouvert, ils ont commencé à distribuer. Quand j'ai pris la copie, regardez ce qui se passe. Même pas une virgule de moins sur la feuille. Tout était à leur place. À moi, dit non, j'ai fini. Je prends ma feuille, je vais remettre. Et je sors, je commence à chanter. Toute la gloire et tout le pouvoir. Et les élèves, ils étaient là, ils étaient étonnés de me voir chanter. Pendant qu'ils sont stressés, d'autres ont même amené des paquets de sucre pour pouvoir manger parce que là, ils étaient paniqués. Vous comprenez ça? Moi, je suis sur le terrain de l'école en train de chanter. À midi, je vais me reposer à la maison. Et pendant que je dormais, qu'est-ce que je vois encore? Épreuve de mathématiques. Il dit, ah, ça commence bien. Je prends encore ma feuille. Je commence à résoudre les équations, tout ce qui est là. Vous comprenez les limites là? Je commence les quoi? Cosinus, tangente, tout jusqu'en bas. Je prends mon cahier de mathématiques, je regarde, je revis cette partie-là. Je prends mon vélo, j'arrive à l'école. Ils viennent encore avec leur enveloppe fermée. Est-ce que c'est fermé? On dit oui. Ils commencent à distribuer. Et vous savez, moi, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Quand j'ai pris le sujet, je regarde, c'est ce que j'ai vu il y a à peine une heure quand je dormais à la maison. Je l'ai traité, je dépose. Le jour de la délibération, je vois les élèves qui sont là, papa et maman à côté, pour soutenir l'enfant. On dit courage, courage. Moi, je suis là sur mon vélo en train de chanter là-bas. Parce que je sais que le Dieu qui m'a parlé, il est vrai. Il commence à appeler. Et je me disais que ça, c'est une obligation. Celui qui appelle, tu es obligé d'appeler mon nom. Tu es obligé. Parce que le Père a déjà écrit mon nom sur la liste des armes. Tu es obligé d'appeler. Vous comprenez ça? Quand on reconnaît qui on est et qu'on va dans la présence de Dieu, le Père manifeste son autorité à nous. Et ça, c'est important. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu, excusez-moi, c'est pas normal qu'un enfant de Dieu dorme et se lève le matin pendant des jours et des jours et des jours sans savoir ce qui va l'arriver. On a un Dieu qui révèle, on a un Dieu qui parle. Mais d'abord, dans la première classe, regarde ce qui se passe avec Joseph. D'accord? C'est pendant qu'il dort que Dieu révèle les choses secrètes. Là, c'est d'abord à l'école primaire d'abord. Quand on débute avec Dieu. Mais souvent, on peut faire 30 ans de vie chrétienne. On est toujours au CP1 là-bas. Dans le monde naturel, on a des diplômes universitaires. Mais dans le monde spirituel, on n'est qu'au niveau CP1. Et le problème, c'est que souvent, même quand on dort, on ne voit rien. C'est des cauchemars. On crie la nuit. Je dis, mais attends, mais en tant... Oh là là là. En tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, si l'autorité du Père habite en moi, Christ est dans mon cœur. Il dit que mon cœur est devenu le temple du Saint-Esprit. Et moi, je dors la nuit. Ce sont que des esprits qui viennent me frapper. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Reconnaissons qui nous sommes, frères et sœurs. Parce que nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à assujettir. Nous sommes appelés à manifester qui est le Dieu vivant. Dans un endroit où il y a l'obscurité, quand un enfant de Dieu entre, la lumière doit jaillir. Parce que le Père a placé sa lumière en lui. Ça, c'est une main importante. Et en étant connecté avec ce Dieu-là, il nous permet de devancer le temps. Vous comprenez? Il nous permet de devancer les choses à l'avenir. Déjà en décembre, je parlais de ça à Rijane il n'y a pas très longtemps. Chaque année en décembre, je me retire avec mon épouse pour prendre du temps avec le Seigneur. Pour comprendre qu'est-ce qu'il attend de moi par rapport à cette nouvelle année. Et c'est pendant qu'on priait en décembre que le Seigneur m'a parlé clairement que en 2019, je t'enverrai dans ce pays lointain-là où je suis aujourd'hui. Frères et sœurs, quand on passe du temps au pied du maître, quand on reçoit l'autorité de Dieu, quand on se lève, tout ce qu'on rencontre là, ces choses ne font que nous obéir parce qu'on a été en contact avec Dieu. Ces deux espions ne savaient pas qui ils étaient. Non, ils ne savaient pas. Dieu habite en eux. Il leur a donné son pouvoir, sa puissance. Le roi de Jéricho, il a entendu parler d'eux. Il est en train de trembler. Mais eux aussi, ils sont en train de trembler. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans cette situation-là? Quand le vent souffle, quand il y a la tempête, ils commencent à trembler. Et quand tu trembles, tu perds le contrôle de ta personne. quand tu trembles, tu es perdu. C'est comme quelqu'un qui conduit une voiture et qu'un gros camion derrière lui klaxonne. Vous comprenez? Quand tu commences à trembler, tu perds le contrôle de la voiture. Mais quand tu restes stoïque, c'est là que tu peux maîtriser ton véhicule et aller où tu dois aller. Et souvent l'ennemi, quand il envoie les vents, il fait tout d'abord pour nous déstabiliser. Il fait tout pour que nous commençons à trembler comme ces deux-là. Ils avaient l'onction, la révélation, le pouvoir, la capacité de Dieu. Mais voilà qu'ils sont en train de trembler parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en réalité. Ils ne savent pas qui ils sont. Ça, c'est un élément important, frères et sœurs. Il faut que l'Église, aujourd'hui, reconnaisse qui elle est en réalité. Et c'est en étant en contact avec Dieu qu'il peut nous permettre d'anticiper certaines choses pour rester calme pendant ces choses-là. Amen. 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 J'aime vraiment le Seigneur. Le jour quand ils ont délibéré, il a appelé mon nom le monsieur. J'ai dit à Dieu, ça toute la gloire. J'ai pris mon vélo, j'ai continué à chanter. Je suis rentré chez moi tranquillement. Le Seigneur avait déjà fait la chose. Permettons à Dieu de nous revêtir de son autorité pour qu'on puisse anticiper les choses, pour qu'on puisse voir les choses très loin. Il nous a donné la vision, la révélation est là pour que tu puisses percer et voir des années à l'avance ce qui peut arriver. Quand j'étudiais en Suisse un jour, je voulais rentrer voir ma famille juste pour 2 semaines. Et juste quelques jours avant, le Seigneur m'a fait comprendre que l'avion que j'allais prendre allait avoir un problème. Et j'ai passé mon temps à prier par rapport à ça. Et vers la fin, il m'a fait comprendre que tu verras le problème, mais ma main va s'étendre sur le vol. On décolle de Bruxelles et juste 2 heures de vol après, le commandant nous annonce que l'appareil a un problème. Et là, l'avion commençait à perdre l'équilibre. J'ai un voisin canadien qui était juste à côté de moi. Vous savez, les sacs à bagages commençaient à s'ouvrir, ça commençait à tomber tout ça. Et l'avion perdait vraiment l'équilibre. Et là, on était en train de manger. Quand ça a commencé. Et je vous assure que personne n'a mis encore un verre d'eau dans la bouche. Et mon voisin criait, je ne vais pas mourir. Je vais pas. J'ai dit, mon ami, on ne mourra pas, reste tranquille. On ne mourra pas. Et il m'a dit, mais toi, tu es quel genre de personne? On est face à la mort. Et toi, tu es assis tranquillement, tu ne fais rien. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai qu'un Dieu qui est à moi et on ne mourra pas. J'ai pris ma Bible, psaume 23, j'ai commencé à lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'avais cette paix à moi. Je me suis rappelé de ce qu'il m'avait dit. Alléluia. Et j'avais cette certitude que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Jusqu'à ce qu'on retourne à Bruxelles pour atterrir. Et le lendemain, on est reparti au Burkina Faso. Frères et sœurs, allons dans ce lieu secret-là. Passons du temps avec Dieu. Allons dans ce lieu secret. Jésus a dit à ses disciples, quand tu veux prier, va dans ta chambre, ferme ta porte. C'est là ton lieu secret. Parle à ton père dans ce lieu secret-là. Et ton père va te révéler des choses cachées dans ce lieu secret. Ça, c'est important. Et là, on voit ces deux hommes qui étaient là en tout tremblant. Et Rahab leur dit, mais écoutez, j'ai vu ces deux hommes, mais je ne sais plus où est-ce qu'ils sont partis. Et là, elle monte maintenant sur le toit. Et voit les 2 zéros. Vous voyez? Ceux dont leur renom fait trembler tout le pays là. Elle monte, elle voit les deux généraux sur le toit en train de trembler. Rahab dit, mais attends, mais vous, qu'est-ce qui vous arrive là? Vous tremblez aussi? Nous, on a entendu parler de vous. Ah! Vous comprenez ça? Elle dit, on a entendu parler de vous. Et tout le pays tremble devant vous. Je pense que quand ils ont entendu ça, ils se sont levés certainement pour dire, ah, alors si vous avez peur de nous, ah, c'est que déjà, on a la victoire. Rahab dit, mais tout le pays tremble. Rien qu'entendre parler de vous, tout le pays tremble. Parce que nous savons le Dieu qui habite en vous. Nous reconnaissons l'autorité du Père qui est en vous. Vous comprenez ça? Je pense qu'il est bon souvent de parler des paroles de victoire pour que nos propres oreilles puissent les entendre. Ça, c'est important. Devant les difficultés, devant les épreuves, quand l'épreuve te fait comprendre que tu vas échouer, il faut prononcer des paroles de victoire de ta propre bouche pour que tes propres oreilles entendent que tu vas réussir parce que Jésus a pris la malédiction sur la croix. Il a besoin sur la croix. Et souvent, quand on est malade, on entend la voix qui nous dit, mais ah, cette maladie-là va te tuer. Hein. Vous savez, quand tu attrapes ça et que tu t'appropries de ça, c'est un problème. Il faut parler, il faut confesser par ta propre bouche. Oui, la maladie est là, mais elle ne me tuera pas parce que Jésus a pris ma maladie sur la croix. Ça, c'est un élément important. Les deux hommes se sont levés et Rahab a commencé à leur parler et dit, écoutez-vous là, on a entendu ce que votre Dieu a fait devant la mer Rouge. Ah bon? Oui, oui. Votre Dieu là, il n'a pas de pareil. Hein? On a entendu qu'il a divisé la mer Rouge pour vous. Pour reconnaître son identité, la première chose, il faut d'abord prononcer des paroles de victoire. Il faut d'abord confesser ce qui est positif. Proverbe 16, 21 déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites, c'est ce qui vous arrive. Si tu dis la vie, elle vient. Tu appelles la mort, c'est la mort qui vient. Et j'aime souvent dire que nous, ou toi, ou moi, je suis le prophète de ma propre vie. Quel que soit ce qu'un homme de Dieu peut prophétiser sur moi, je suis le prophète de ma propre vie. Dieu peut parler positivement et moi, par ma bouche, je peux annuler le programme de Dieu. Vous comprenez ça? Quel que soit le nombre de jours qu'on peut prendre pour gêner, c'est bien, mais il faut qu'on arrive à discipliner notre langue. Qu'elle dise la vie, qu'elle dise ce qui est bien, qu'elle dise ce qui est juste, qu'elle dise ce qui est droit. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En 2010, j'ai été prié pour un monsieur qui était gravement malade. Et quand je suis arrivé, j'ai vu son état, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, pasteur, pourquoi tu pleures? J'ai dit, monsieur Sakana, parce que je vois que tu souffres vraiment. Effectivement, la médecine l'avait condamné à l'époque. Et il m'a dit, tu sais, ça c'est ce que la médecine dit. Et je sais que ma maladie, la maladie que j'ai, a déjà tué plusieurs, j'en suis tué moins. Mais pasteur, si la vie est dans la parole, laisse-moi te dire que je ne mourrai pas. Avant que le temps de Dieu, le temps que Dieu m'a donné, je vais prendre tout ce temps-là avant de quitter sur la terre. Vous savez, ça fait 9 ans aujourd'hui. Il est toujours dans le monsieur. Proclame des paroles de vie. Proclame des paroles de victoire. Parce qu'il nous a créés pour avancer. Il nous a créés pour posséder. Il nous a créés pour prendre possession. Et ça nous appartient. Donc, pour reconnaître son identité, il faut d'abord proclamer des paroles de victoire. Et la deuxième chose, il nous faut nous rappeler des victoires dans le passé. C'est ce que Rahab leur a dit. Il dit, vous l'écoutez, ne tremblez pas. Hein. Rappelez-vous du passé. Votre Dieu a divisé la mer Rouge. Ils disent, ah, c'est vrai. Hein. On avait oublié ça. Souvent, quand nous sommes face à des épreuves, on se décourage. Mais si on se rappelle que dans le passé, il y a eu des choses pareilles et que Dieu m'a délivré, on prend courage. Alléluia. Alléluia. Si on se rappelle que, oui, dans le passé, Dieu a ouvert la mer Rouge. Il a calmé des tempêtes. Il m'a guéri. Il a ouvert des portes. Il m'a nourri. Il m'a protégé. Il m'a gardé. Si on se rappelle de ça, frères et sœurs, on se dit que le même Dieu, il n'a pas changé. Hébreux 13, 8 déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui et il le fera encore. Rappelons-nous, frères et sœurs, des victoires dans le passé. Rappelons-nous de ces victoires-là. Les victoires dans le passé. Qu'est-ce que le Père a fait pour nous dans le passé? Appuyons-nous sur ces victoires-là pour dire, Père, voilà ce que tu as déjà fait pour moi. Je m'appuie encore sur toi pour la suite du voyage. Il est fidèle à sa parole. La troisième chose, Rahab leur dit, il dit, écoutez, votre Dieu-là, c'est le seul et le véritable dans le ciel comme sur la terre. Alléluia. Mais moi, je suis enfant de ce Dieu. Vous comprenez? Pourquoi j'ai peur? Ce que les hommes peuvent dire sur moi, des paroles négatives, des paroles d'échec. Moi, je suis le fils, l'enfant de ce Dieu-là. Ces paroles n'ont point d'effet sur moi. Non. Vous comprenez ça? Mais souvent, l'ennemi permet que ces paroles-là nous traumatisent. Souvent, l'ennemi permet que ces paroles nous déstabilisent. Ça, c'est un élément important. Il faut, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions savoir que le Père m'a créé pour un but bien précis. Pour témoigner de son royaume. et porte haut sa lumière, porte haut son étendard, parce qu'il est le roi de gloire et le maître de la lumière. Ça, c'est un élément important. Maintenant, comment l'ennemi arrive à nous faire perdre notre identité? Ça, c'est important. Ça, mais il est subtil, hein? Et dans les derniers temps, il est déchaîné. Moindre occasion, il touche. Moindre occasion, il veut frapper. La première chose que l'ennemi fait pour qu'un chrétien puisse perdre son identité, il amène ce qu'on appelle le doute. Quand on commence à douter, il y a la porte qui s'ouvre. Regarde dans Genèse, chapitre 3, 2 à 3. On regarde là-bas. Hey, Adam et Ève dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Satan est venu. Il dit, mais Ève, ah, tu as vu le jardin là, c'est beau, hein? Hein? Tu as vu, hein? Elle dit, oui, c'est vraiment beau. Elle dit, mais par rapport à ce arbre-là, qu'est-ce que Dieu a dit? Elle dit, mais, ah, mais Dieu a dit que de ne pas manger, hein? Le jour qu'on va manger là, on va mourir. Elle dit, mais ah bon? Hey, Ève, tu sais, ça là, si tu en manges, tu ne mourras pas. Tes yeux vont s'ouvrir. Ce que le serpent a dit, c'est vrai. Écoutez-moi très bien. Le serpent a dit que quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. C'est vrai. Mais Satan n'a pas dit de quelle manière leurs yeux vont s'ouvrir. C'est là le problème. Vous comprenez? Quand vos yeux vont s'ouvrir là, qu'est-ce que vous allez voir? C'est ça qu'il n'a pas dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et là, Ève va commencer à douter. La porte s'ouvre et tac, il frappe. Et c'est là qu'il arrive à toucher l'identité d'Adam et d'Ève. C'est ça. Souvent, il vient avec sa subtilité pour destituer, pour déstabiliser le chrétien avant de frapper. Et après ce doute-là, qu'est-ce qu'il amène? Il amène ce qu'on appelle la peur. Quand on doute, on ouvre la porte et la peur commence à s'installer. Et quand on a peur, frères et sœurs, on n'a pas ce courage-là d'avancer. Et dans les derniers temps, l'arme que l'ennemi utilise beaucoup, excusez-moi, pour toucher l'église corps de Christ, c'est la peur. C'est la peur. On a peur. On entend parler de quelque chose. Ouh, on a peur. Vous comprenez? Quand tu commences à trembler, à frémir, la porte s'ouvre déjà. C'est ça. Au Burkina Faso, il y a toujours des lions. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le lion, quand il va dans un enclos, où il y a des brebis, qu'est-ce que le lion fait? Il reste loin. Il commence à gémir. Le bruit là, la brebis qui va sauter hors de l'enclos pour s'échapper, le lion va l'attraper. Il va d'abord gémir. Quand il va crier, quand il va rugir, vous allez voir, ils auront peur. Mais s'ils vont tous ensemble dans un coin de l'enclos, le lion n'a pas de force. Mais la brebis qui va sauter à cause du rugissement pour fuir là, c'est cette brebis là, le lion va attraper. Donc souvent l'ennemi fait ça. Il vient rugir sur ta maison. La maladie est là. Hey. Tout ce que tu touches, ça se casse. Tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir peur. Est-ce qu'il y a un malheur qui frappe à ma porte? Non, mon ami, reste tranquille là. Reste tranquille, l'autorité est là. Vous comprenez? La Bible dit, si c'est le péché, en face du péché, qu'est-ce que la Bible dit? Il faut fuir. C'est pas ça? Mais quand c'est Satan, qu'est-ce qu'il dit? Il faut le réprimer. Il va partir. Quand c'est le péché, mon ami, il faut fuir comme Joseph. Mais quand c'est l'ennemi, quand il rugit, tu dis au nom de Jésus, j'ai l'autorité du Père à moi. Il m'a revêtu de sa puissance, de son autorité, de sa capacité. Quand tu dis ça, dès que Satan sait que cet enfant connaît ses droits, il n'est pas, il le laisse tranquille. Mais quand c'est que tu es ignorant là, il va toujours rugir, tu vas passer ton temps à courir partout, tout le temps fatigué. Vous comprenez? Tout le temps fatigué. Parce qu'il sait que cet enfant ne connaît pas ses droits, il ne sait pas qui il est. Donc il arrive le matin, il rugit sur ta maison, il invoque une maladie. Toute ta journée, tu es déstabilisé comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu es paniqué, tu as peur. Le soir encore, il rugit. Il amène un problème. Ah, tu es perdu encore. Et petit à petit, ça brise ta relation avec Dieu. Vous comprenez ça? Mais l'enfant qui connaît ses droits, qui reconnaît qu'il a l'autorité du Père, quand le lion rugit, il s'arrête comme David pour dire au nom de Jésus, le Père est là, j'ai son autorité. J'ai son pouvoir, j'ai sa puissance. Et là, l'ennemi est obligé de repartir. Parce qu'il fait face à quelqu'un qui connaît son identité. Ça, c'est important, frères et sœurs. La peur touche beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La peur d'eux, la peur d'eux, la peur d'eux. Et ce pourquoi on a peur là, c'est souvent par là que vienne le rugissement du lion. La troisième chose, quand on doute, la peur s'installe. La troisième chose, c'est le découragement. Ça, on a dans l'église aujourd'hui des chrétiens, excusez-moi, qui sont tout le temps découragés. Et c'est l'arme qui les maîtrise le plus. Quelle que soit ta position, quel que soit ton état, quand l'ennemi t'amène au découragement, frères et sœurs, un homme qui est découragé, c'est un homme qui a baissé ses bras. Il a déposé ses armes. Il dit, c'est assez, je n'en peux plus. Regardez Élie. Hey. 1 roi 17, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé devant Akab. Il a fermé le ciel. 1 roi 18, qu'est-ce qui s'est passé? Devant le prophète de Baal. Il a pillé le feu, est descendu. Il a tué le prophète de Baal. 1 roi 19, qu'est-ce qui se passe maintenant? On voit le même Élie qui a prié pour que le feu descende là, qui est en train de fuir devant qui? Jézabel. Et dans sa fuite, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, je ne suis pas mieux que mes pères. Tue-moi, prends-moi la vie. Ah ah, pourquoi? Fatigué, découragé. Combien aujourd'hui l'ennemi nous ballotte, il nous traîne jusqu'à ce point-là où on dépose les armes pour dire, je ne sais plus qui je suis. Je suis fatigué de ça. Et souvent, dans ce découragement, c'est là qu'on arrive à abandonner le Seigneur. C'est là. Parce qu'on n'a plus de force. Combien à coup de découragement, n'ont plus de relation avec Dieu. Combien à coup de découragement, ont abandonné leur relation, leur intimité avec le Seigneur. Combien à coup de découragement, ne peuvent plus prendre 15-20 minutes pour aller dans la présence de Dieu, pour parler à Dieu. Combien de personnes? Parce qu'ils sont découragés. Et l'ennemi sait que ce découragement-là, c'est l'arme qu'il va utiliser dans les derniers temps pour déstabiliser beaucoup de personnes. Peut-être ce soir, frères et sœurs, il y a quelqu'un qui est ici qui veut reconnaître encore son identité dans le Seigneur. Peut-être il y a quelqu'un qui doute où l'ennemi a envoyé la peur, il envoie le découragement. Et ce soir, cette personne-là veut dire à Dieu, Seigneur, je suis encore là. Redonne-moi ton identité. Remets encore ton ADN à moi, car je vais vivre pleinement ma vie chrétienne. Je vais vivre pleinement ma foi. Peut-être ce soir, il y a quelqu'un qui veut dire, mais Seigneur, je voudrais encore être un instrument puissant entre tes mains. Vous savez, j'ai toujours dit à l'église où je suis, l'ennemi c'est qui utilisait pour nous décourager. Un jour, pendant que j'étais abattu, j'expliquais à Rijane, de plein de choses à l'église, j'étais fatigué, j'étais abattu, j'étais découragé. Et à peine si tu me demandais mon nom, je ne connaissais même plus mon nom. Tellement j'étais au bout. Et je suis allé vous rendre visite à un pasteur, dans la brousse, en profondeur. Je revenais et je me suis parqué juste au bord de la voie en brousse tout seul. Et vous savez, j'ai vu un monsieur qu'on appelle un fou. C'est-à-dire, il ne joue pas de toutes ses facultés. Voilà. Il parle au hasard, il dit tout ce qu'il veut. Voilà. Et là, il vient, il me voit arrêter. Il me dit, mais toi, qui es-tu? Je ne lui répondais pas. Il a commencé à m'insulter. Il a commencé à dire tout ce qu'il voulait de moi. Je suis là. Il a fini et il m'a dit, mais si tu me réponds, je te gifle. Mais il était bien marqué comme ça. Donc j'ai eu meilleur temps de ne pas lui répondre. Et là, il est parti. Et je rentre dans la voiture, et cette pensée de Dieu qui me dit, mais quand ce fou t'a parlé là, pourquoi tu ne t'es pas découragé? Je dis, mais Seigneur, parce qu'il est fou. Il ne joue pas de ses facultés. Il dit, mais est-ce un homme qui t'a parlé, oui ou non? Je dis, c'est un homme qui m'a parlé, bien sûr. Mais alors, ceux qui te parlent de l'autre côté là, ce ne sont pas des hommes aussi? Ah ah! Vous comprenez ça? Et j'ai dit, mais Seigneur, merci. Et c'est là que ce découragement m'a libéré. C'est là que ce découragement a lâché ma vie. Quand j'ai crié au secours, j'ai senti une force qui a commencé à revenir dans mon être et cette joie de vivre. Parce que la lumière du Père est revenue dans ma personne. Rahab a dit à ces deux hommes, il dit, écoutez-vous là, tout le pays là, Dieu vous l'a déjà donné. Ne tremblez pas, hein. Nous on a peur de vous. Vous êtes des champions, des héros. On dit, ah bon, nous? Oui, oui. êtes des champions. Des héros. Vous, votre Dieu, là, il est puissant. Hein? C'est-à-dire, c'est la prostituée Rahab. Vous comprenez? C'est la prostituée qui vient révéler la puissance de l'Éternel à ses enfants. Vous comprenez ça? Souvent, le monde reconnaît la puissance de Dieu que nous avons. Mais nous, étant dans le Seigneur, est-ce que souvent nous reconnaissons la capacité de ce Dieu-là? Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous. Quel que soit l'endroit, je suis avec vous. Je vous utiliserai. Et là, on voit que ces deux soldats sont repartis et encouragés. Ils étaient sous le linge, mais ils sont sortis comme des grands héros. Parce qu'ils ont juste entendu des paroles. Peut-être que ce soir, tu as entendu des paroles qui t'ont déstabilisé. Peut-être que ce soir, tu as entendu des paroles qui t'ont blessé et ton cœur continue de saigner. Peut-être que tu as entendu des paroles qui t'ont fait pleurer. Et tu te poses des questions, qui je suis? Pourquoi je suis dans ce monde? Ou pourquoi ces choses m'arrivent? Le Seigneur veut te réhabiliter ce soir. Il veut te repositionner ce soir. Il veut te donner un nom nouveau ce soir. Il veut qu'une nouvelle page s'ouvre afin que tu puisses faire un nouveau départ avec le Seigneur. Le passé va rester le passé parce que quand la lumière de Dieu vient, cette lumière fait de nous des vainqueurs. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et ce soir, ce Dieu-là, il veut être avec nous. Ce soir, ce Dieu veut nous dire, je suis là, mon fils, ma fille, je suis là, je vais t'accompagner. Je vais te relever. Ça fait des mois, ça fait des années que tu es tombé, que tu es abattu, que tu es déboussolé, découragé, désorienté. Mais ce soir, je veux te relever. Je veux que nous puissions marcher ensemble encore. Car je suis l'Éternel qui t'aime. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la longueur du désert, ou quelle que soit la nature du problème, ou des soucis, ou quel que soit ce que tu as entendu, ou ce que j'ai entendu, il dit ce soir, je veux te relever. Je veux te relever. Je veux te relever. Vous savez, un seul mot de Dieu annule les 10 000 mots que les hommes ont prononcés sur toi. Un seul mot de Dieu. Voilà pourquoi le centenier a dit à Jésus, ne viens pas chez moi, mais dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il veut dire un seul mot ce soir pour guérir un cœur blessé. Alléluia. Alléluia. Il veut dire un mot ce soir pour relever quelqu'un qui est fatigué. Il veut dire un mot ce soir pour essuyer les larmes de quelqu'un. Il veut dire un mot ce soir pour prendre quelqu'un dans ses bras pour dire, je suis ton père, je suis ton berger, je ne t'abandonne pas, je ne t'oublie pas. Et ma Bible me dit que même si une mère arrivait à abandonner l'enfant qu'elle a enfanté, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Les montagnes peuvent chanceler, s'ébranler, mais mon amour restera toujours là. Mon amour ne change pas. L'identité que j'ai placée en toi, l'ennemi est venu pour déstabiliser, pour décourager, pour t'abattre par le doute, par la peur, par le découragement. Mais je viens ce soir pour te relever, pour te restaurer. Il est là ce soir, frères et sœurs, pour nous faire du bien. Je voudrais juste que nous puissions avoir quelques moments dans la prière. Sa présence est là ce soir. Sa présence est là, sa présence est là. Sa présence est là. Il veut nous restaurer. Il veut nous réhabiliter. Il veut nous encourager. Celui qui est fatigué, celui qui doute, qui vit dans la peur, parce qu'il a entendu les mots des hommes, parce qu'il a entendu les paroles méchantes des hommes, il est là ce soir pour guérir le cœur qui saigne, pour toucher le cœur blessé, pour consoler le cœur meurtri, pour relever celui qui n'a plus de force. C'est pour toi qu'il est venu à la croix. C'est pour moi qu'il est venu à la croix. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. J'ai tout pris à la croix. Tout est accompli. J'ai pris toutes tes insultes. J'ai pris ta malédiction. J'ai pris ta maladie. J'ai pris tes problèmes. J'ai pris tes soucis. J'ai pris tes angoisses. Quel que soit ce que tu traverses, même le fardeau qui pèse sur toi, je suis venu pour le prendre et te rendre ma liberté.